Donc, frères et sœurs, chers amis, je suis en particulier heureux de la présence des scouts qui sont là en face de moi, mais aussi de la présence parmi nous des représentants des autres églises chrétiennes. Merci de votre présence et de votre prière. Nous ouvrons le synode pour nous laisser éclairer ensemble sur la vie de nos communautés paroissiales, de nos communautés chrétiennes aujourd'hui et pour l'avenir. Nous le faisons en ce dimanche où nous célébrons Saint Julien, premier évêque de notre diocèse, premier évangélisateur de la Sarthe. Donc ouvrir le synode dans la fête de Saint Julien, c'est manifester la volonté de nous situer dans la continuité de ceux qui nous ont précédés, les saints évêques, les prêtres, les consacrés, les fondateurs, les baptisés, les missionnaires, qui ont annoncé l'Évangile avant nous et qui nous ont transmis la foi. La tradition dit, vous le savez, que Saint Julien fait jaillir une source en frappant le sol de sa crosse. Bien sûr, il s'agit avant tout de la source du baptême, de la source de la vie nouvelle dans le Christ. À travers la démarche du synode, nous voulons que cette source d'eau vive jaillisse continuellement au cœur de nos communautés. Et je vous rappelle l'image empruntée à Jean 23 que nous entendrons sans doute régulièrement. Il aimait comparer l'Église et la paroisse à la fontaine au milieu du village. L'Église est comme une vieille fontaine de village qui abreuve des générations pendant des siècles. La fontaine ne distingue pas entre les personnes sympathiques et les antipathiques, entre les bons et les mauvais, entre les marginaux et les bien-pensants. Elle les accueille avec sa générosité proverbiale. Elle déverse son eau vive pour tous et son eau fraîche coule sans fin comme un cadeau précieux pour le pèlerin assoiffé par la route. Pour vivre le synode, je me permets de vous inviter à choisir quelques attitudes fondamentales qui doivent sous-tendre notre démarche. La première, c'est de prier l'Esprit-Saint. Nous l'avons fait déjà. Le jour de la Pentecôte, alors que les disciples sont en prière avec Marie, l'Esprit-Saint ébranle la maison où ils se trouvent et se répand sur chacun d'entre eux. Et ils sortent alors annoncer l'Évangile. Ainsi commence l'élan missionnaire de l'Église. À la Pentecôte, l'Esprit-Saint a fait sortir d'eux-mêmes les apôtres, les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu. Il leur donne la force pour annoncer la nouveauté de l'Évangile. Alors, prier l'Esprit-Saint suppose au moins deux attitudes. La première, c'est lui demander effectivement d'agir devant, avec détermination. Plus exactement, demander au Père de nous le donner. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent? Dieu donne l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent. Alors nous allons demander au cours de cette année ou de ces deux années, ensemble. Ainsi deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père. C'est pour ça qu'il est important que nous le fassions ensemble. La seconde attitude, c'est d'être disposé à ce que l'Esprit-Saint nous change, nous dérange. On ne peut inviter l'Esprit-Saint à venir remplir notre être sous réserve qu'il laisse les choses comme avant. À ce que touche l'Esprit-Saint, il le transforme. dit saint Cyrille d'Alexandrie. La deuxième attitude fondamentale, c'est d'écouter. C'est la première lecture, commence par « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu ». Nous avons entré dans une attitude d'écoute. Je pense au petit Samuel, à qui le prophète Élie conseille « S'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Cela est exigeant. Cela suppose d'entrer dans une forme de silence, dépasser nos agitations extérieures et intérieures, nos interprétations, nos réactions immédiates. Écouter, c'est écouter la parole de Dieu. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est écouter nos frères et sœurs. L'écoute de l'Esprit-Saint passe par l'écoute les uns des autres, avec bienveillance, patience. Nous écouter les uns les autres suppose de mettre en œuvre l'invitation que nous avons entendue dans la langue allemande, dans la première lecture. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité, jamais intrigant ni vantard, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Écoutez, c'est aussi écouter ce que Dieu nous dit à travers les événements du monde, car il est maître du temps et de l'histoire, car il nous devance. Il nous parle à travers les joies et les tristesses, les espérances et les angoisses du monde. Je vous invite à ne pas oublier que parfois, ce sont les autres qui ont raison. Parfois, Dieu ne pense pas comme nous. Mes pensées ne sont pas, sont au-delà de vos pensées, et mes chemins sont au-delà de vos chemins. La troisième attitude, c'est espérer, l'espérance. Regardons le monde avec espérance, c'est-à-dire comme des chrétiens. Sans sous-estimer les défis, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le monde et dans notre vie ecclésiale. Nous sommes parfois inquiets, car nous voyons disparaître un certain nombre de formes de vie chrétienne ou d'activités qui caractérisent l'encadrement de nos paroisses ou de nos mouvements. Jésus n'a pas promis l'éternité à nos modèles de vie, même de la vie de l'Église. Il a promis l'assistance de l'Esprit-Saint à ceux qu'il a envoyés dans le monde comme lumière du monde. Et il a promis qu'il serait toujours là avec nous. Il est même capable de se servir des épreuves, même celles qui proviennent de nos péchés, pour nous conduire et conduire l'Église à une plus grande fécondité. Et parfois, vous le savez, il nous conduit là où nous n'avions pas pensé aller. Le monde est tenté aussi de désespérance, dominé souvent par un sentiment d'angoisse face à l'avenir, la violence et la guerre, le flux migratoire, les dégâts causés à la nature, les questions éthiques sur la vie humaine, la mondialisation. Beaucoup aujourd'hui sont désorientés, sans espérance. En réalité, ces défis sont autant de lieux où Dieu nous attend et nous parle. Des portes ouvertes par lesquelles il veut rejoindre les cœurs, car la recherche de Dieu ne disparaît jamais. J'ai dans le cœur, en pensant à cette célébration d'aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai dans le cœur deux paroles de l'Écriture. Paul aux Thessaloniciens, « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Et puis l'autre, un psaume, « La joie du Seigneur est notre rempart. » regard d'espérance. Et puis le troisième point, ou le quatrième, pardon, attitude, c'est, se résume en un mot, c'est sortir. Là, souvenez-vous de ce passage rapporté dans les évangiles où Jésus se lève tôt le matin pour aller prier à l'écart. Les apôtres partent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus est sorti du Père, de la Trinité, pour aller vers nous tous, vers tous les hommes. Nous devons nous aussi sortir. Le pape François, vous le savez, ne cesse de nous inviter à sortir. Nous sommes appelés, je le cite, à cette nouvelle sortie missionnaire. Et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur propose. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Plus précisément, pour reprendre l'expression du pape François, il nous faut ouvrir les portes, ça c'est de lui, vous le savez, pour laisser Jésus sortir. Et pour sortir avec lui. Enfin, la troisième attitude fondamentale, et j'aurais peut-être dû la citer comme la première, c'est se laisser saisir de compassion. Enfin, le cœur de notre démarche, le point de basculement de nos vies personnelles et de la vie de nos communautés, est de nous laisser transpercer le cœur par la détresse de nos frères et sœurs. Le passage de l'évangile de Marc, qui a été proclamé, est très éclairant pour la manière de vivre notre synode. Donc Jésus invite les apôtres à venir à l'écart. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Ils partent en barque, mais les gens s'en aperçoivent et les devancent, arrivent avant eux. En débarquant, Jésus voit une grande foule. Il est saisi de compassion envers eux parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Entre parenthèses, drôle de repos. Mais peut-être qu'il y a là un point fondamental à comprendre. Aller à l'écart, se reposer auprès du Christ, lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, prenez sur vous mon joug, vous trouverez le repos, devenez mes disciples. » Allez à l'écart pour être avec Jésus, comme Jésus nous laissait bouleverser, saisir de compassion pour les foules. Peut-être que c'est cela la démarche du synode. Le cœur du Christ est transpercé, saisi de compassion pour les foules, pour l'humanité. Alors qu'à travers, c'est ce que je souhaite, qu'à travers l'humble démarche de notre synode, l'Esprit Saint transperce nos cœurs comme celui du Christ et que nous soit accordé à nos communautés, à nous tous, un surcroît de charité. Vous savez, l'objectif n'est pas de nous préoccuper de nos organisations internes, mais d'être renouvelé par la charité, par l'espérance, par la joie, la joie de l'Évangile, la joie même de Dieu. En réalité, n'oublions pas que nous portons la joie du monde. Nous sommes les chrétiens. Malgré nos misères, ou à travers nos misères, la joie du monde.